Alors on peut se tourner ensemble dans l'évangile de Jean au deuxième chapitre et on va continuer notre étude. Si vous y êtes, on peut se lever pour lire ensemble à partir du verset 13 dans le chapitre 2, le texte qu'on va étudier ce matin. La Pâque juive était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que les changeurs de monnaie installés dans le temple. Alors il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa leur table. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs prirent la parole et lui dirent « Quel signe nous montres-tu pour agir de cette manière ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent « Il a fallu 46 ans pour construire ce temple et toi en 3 jours tu le relèverais ?» Cependant, lui parlait du temple de son corps. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem lors de la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. Prions. Jésus, encore une fois, nous te remettons ce temps. Parle à chacun d'entre nous. Révèle-nous les endroits dans nos vies que nous devons nettoyer, que nous devons ranger, Seigneur, comme nous allons le voir ce matin. Merci pour ce temps ensemble. Merci pour ta parole. Merci pour cette parole qui est si riche, Seigneur. En ton nom, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, la semaine dernière, on a regardé ensemble un miracle de conversion ou de transformation. On a vu Jésus changer de l'eau en vin, il a changé la nature même de quelque chose, de l'eau qui est devenue du vin. Et aujourd'hui, on va regarder un miracle de purification, ou un travail de nettoyage. Et c'est une très bonne manière de regarder et de comprendre la manière dont Jésus agit dans nos vies. La première chose qu'il fait, c'est de venir à nous et de nous convertir, de nous transformer, de nous changer. Et une fois qu'il nous a changés, il travaille à nous purifier, à nous sanctifier, à enlever les mauvaises choses. Et les deux choses vont ensemble et vont dans cet ordre-là. Et on notera que c'est important que ça aille dans cet ordre-là. Et parfois, nous, on essaye de nettoyer, de purifier sans avoir eu la transformation avant. On veut que les gens changent, on veut que la société change, mais le problème, c'est un problème de cœur et de nature avant. Et ensuite, il peut y avoir ce travail de purification et de nettoyage. Donc, on était au mariage où il change l'eau en vin. Et maintenant, on change de contexte. Verset 13, la Pâque juive était proche et Jésus monta à Jérusalem. Alors, il était dans le nord, près de Galilée. Il y avait les villes de Nazareth, de Cana et Capernaüm où on l'a quitté au verset 12. Et maintenant, il descend au sud du pays, à Jérusalem. Dans ce récit précis, il se trouve dans le temple pour la période de cette fête qu'est la Pâque. Alors la Pâque, qu'est-ce que c'est ? Pour les Juifs, c'était la célébration et la commémoration de leur sortie d'Égypte. C'était une libération miraculeuse par Dieu pour ce peuple qui était des esclaves en Égypte et qui sont libérés par Dieu avec les histoires de Moïse notamment. Et si ça vous intéresse, c'est dans le livre d'Exode, vous pouvez lire les histoires qui concernent cet événement. Et c'était quelque chose de très important et de une des plus grandes fêtes de l'année pour les Juifs. Et on dit qu'il pouvait avoir, alors les estimations suivant les commentaires que je lisais, c'était 250 000, un demi-million de visiteurs en plus à Jérusalem. Même à Nice, ça ferait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et donc, il y a énormément de Juifs en visite qui venaient pour cette fête de tout le monde connu de l'époque. Et on voit que, comme pour tout grand événement, il y a des bénéfices à en tirer. C'est comme quand il y a le Festival de Cannes ou qu'il y a le Grand Prix, il y a des gens qui gagnent de l'argent grâce à ces choses-là. Et on va voir que les personnes qui avaient tout un commerce autour de cette fête, et pour expliquer ça, dans la loi, il y avait des sacrifices et des impôts qu'il fallait payer au temple. Et tous ces Juifs qui voyageaient de loin venaient pour faire ces choses. Ils venaient pas pour être présents parce qu'il y avait des gens. Ils venaient pour se rendre au temple et obéir à Dieu et offrir les choses que la loi leur demandait de donner. Et donc, on s'imagine qu'il y avait énormément de monde dans le temple. On va regarder après quand Jésus commence à chasser les marchands et les personnes ici, mais ils étaient énormément de monde dans le temple. Et le temple, le bâtiment était assez petit, n'était pas très grand en tant que temple, on va dire, mais les cours extérieures étaient grandes et spacieuses, et apparemment, on peut encore s'en rendre compte de nos jours. Quand on se rend à Jérusalem, on peut voir les dimensions de ces cours extérieures et de la place qu'il y avait. Et donc c'est ça il y avait quand on se met dans ce texte, il faut comprendre qu'on n'est pas dans une petite placette comme ici et qu'il y a deux trois tables et c'est vraiment c'est toute la cour Saléa plus grand, c'est énormément de monde, c'est énormément de place, énormément d'activités. Alors le temple, c'était le lieu que Dieu avait établi comme l'interface entre lui et les hommes dans l'Ancien Testament. Initialement, les Israélites, quand ils sont sortis d'Égypte, qu'ils étaient dans le désert, Dieu leur a donné la loi et il leur a donné cette chose qu'on appelle le tabernacle, qui était une sorte de temple mobile, avec des tentes, avec les objets, etc. Et donc ils avaient ce tabernacle qu'ils transportaient avec eux et puis qu'ils pouvaient installer dès qu'ils arrivaient à un endroit. Hop, ils installaient leur tabernacle et Dieu, c'était l'endroit où ils interagissaient avec Dieu. Et ensuite, quand ils ont été établis dans le pays, la terre promise, en Israël, Dieu a fait construire un temple par Salomon. C'était un temple grandiose, mais qui a été détruit par les Babyloniens avant l'exil. Suite à cet exil à Babylone, donc les Israélites ont été conquis, détruits, ils sont partis à Babylone pendant 70 ans, et ensuite Dieu leur a permis de revenir dans le pays. Et il y a un personnage qui s'appelle Zorobabel qui est revenu de Babylone pour reconstruire un temple à Jérusalem, pour pouvoir avoir cette relation avec Dieu, avoir cette interface avec Dieu en Israël, à Jérusalem. Et ce temple est donc celui dans lequel Jésus se trouve quand il arrive ici, mais c'est un temple qui est en train d'être rénové au moment où Jésus est là. On parle du temple d'Hérode le Grand, et c'est parce que Hérode le Grand, qui avait des soucis avec les Juifs et pour gagner leur faveur, a lancé des grands travaux de rénovation du temple et du parvis et de tout l'endroit. Et ce sont des travaux incroyables et dont apparemment on peut encore voir les effets et les restes 2000 ans plus tard. C'était un bâtisseur incroyable et les choses qu'il a faites, c'était des choses qui moi, j'ai du mal un petit peu à imaginer, mais on parle de blocs, de pierres, des dimensions incroyables. Il a fait venir des architectes de tout le monde connu. Il a passé des années, 5 ou 10 ans, à faire juste des murs de soutènement pour pouvoir faire des remblais, pour pouvoir faire une esplanade. Et donc, ces travaux commencent en 20 avant Jésus-Christ et durent, on pense, les chefs religieux lui disent à Jésus, ça fait 46 ans déjà qu'on est en train de le construire et ça va durer jusqu'en 64 de notre ère. Donc c'est plus de 80 ans de travaux, de rénovation, de construction. C'est dans ce temple et dans ce contexte que vient Jésus. On pourra noter quelque chose aussi de fou et de tragique, c'est qu'ils vont finir à peu près en 64 les travaux de rénovation et restaurer ce temple incroyable et magnifique. Et Rome va complètement détruire le temple en 70. Ils ne pourront en profiter que 6 ans. C'est tragique et c'est fou et on le voit parfois dans les choses, les interactions entre Jésus et les chefs religieux et avec Jérusalem où il pleure sur Jérusalem parce qu'il sait qu'il le rejette et qu'ils vont subir de lourdes conséquences. Alors, qu'est-ce qui se passe ici dans le temple et quelles sont les choses qui ne vont pas? Il y a de mauvaises pratiques qui ont lieu dans le temple. On voit au verset 14, il trouva les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons ainsi que les changeurs de monnaie installés dans le temple. Alors il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa leurs tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. » Jésus avait sans doute vu pas mal de fois ces choses. Elles étaient déjà en place depuis longtemps et dureront sans doute après son passage au temple, ces multiples passages au temple pendant qu'il était présent à Jérusalem. Les juifs devaient aller, les hommes juifs devaient aller normalement 3 fois par an pour 3 fêtes différentes à Jérusalem pour offrir les sacrifices, pour accomplir les obligations de la loi. Il y avait la Pâque, la Pentecôte et la fête des huttes ou des tabernacles. On pense que Jésus a été de multiples fois, a vu ces choses. On voit dans Luc qu'il était monté au temple en tant qu'enfant, qu'il y a cet épisode où ses parents l'oublient au temple et reviennent et le trouvent en train de débattre de théologie avec les chefs religieux. Et donc c'est pas quelque chose qui était nouveau, mais ici, on voit qu'il a changé. On avait parlé la semaine dernière que sa relation avec sa mère, il y avait eu un changement. Il était passé dans son ministère. Il y avait comme un OK, maintenant je me concentre sur la volonté de Dieu le Père, sur ma mission, et qu'il y avait un petit changement dans sa relation, son rapport avec sa mère. Et ici, sans doute, il y a aussi l'idée que maintenant, il est là pour accomplir la volonté de son Père et s'occuper de la maison de son Père. Il est dit au verset 17, « Le zèle de ta maison me dévore. » Si ce temple et ce lieu, c'est la maison où Dieu habite, Dieu le Père, alors Jésus, c'est sa maison aussi et il vient s'en occuper maintenant que son ministère a commencé. Alors qu'est-ce qui n'allait pas? On peut parler sans doute de 3 choses. Il y avait un, le fait qu'il y avait des gens qui profitaient financièrement, matériellement, ils y gagnaient quelque chose personnellement de la religion. Ensuite, il y avait peut-être l'idée qu'ils empêchaient ou ils étaient un obstacle pour que les gens viennent vraiment interagir avec Dieu, viennent louer Dieu, viennent adorer Dieu. Et on va regarder pourquoi. Et peut-être le 3e point, c'est le fait que le peuple finalement tolérait ça. Et on peut peut-être avancer l'idée que c'était parce que c'était pour eux peut-être plus facile. Ça, c'était un peu une manière, ça rendait les choses beaucoup plus commodes pour le peuple d'avoir les choses ainsi et que donc ils le toléraient sans poser trop de questions. Alors, la première chose, le profit financier et matériel, On voit les vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons. Ça, c'était des animaux qu'on devait offrir en sacrifice. Et donc, les gens devaient venir au temple et offrir des sacrifices. Et les prêtres et les responsables juifs s'étaient dit, ben, on va installer un petit marché aux animaux, comme ça on leur vend un peu plus cher, ils offrent le truc, mais on leur dit c'est bon, c'est un sacrifice valable, il n'y a pas à vous soucier, il est bien comme il faut, voilà. Et puis hop, vous achetez, vous allez offrir le sacrifice, voilà, avec un profit évidemment. Et puis ensuite il y a les changeurs de monnaie, là il y avait des questions d'impôts ou de taxes qu'il fallait payer au temple, et en gros les autres monnaies, les juifs qui voyageaient de loin, qui venaient d'un peu partout, leur monnaie n'était pas acceptable comme offrande. On ne sait pas si c'est parce qu'il y avait peut-être des images des différents dieux ou divinités ou chefs, etc. Il y avait l'idée que ils venaient au temple, et pour pouvoir payer l'impôt qu'ils voulaient payer, la taxe, ils devaient changer leur argent en des je sais plus comment c'est, des shekels ou les shekels du temple. Et c'est un peu comme si, quand vous veniez le dimanche matin ici, je vous disais non, on prend pas les euros, il vous faut acheter des euros Calvary spéciaux. Et évidemment, le taux de change, ben, il est en ma faveur, et donc et malheureusement, c'était ce qui se passait. Et donc c'était un vrai commerce qui gagnait énormément d'argent. Il y a un historien célèbre juif qui travaillait pour les Romains, Flavius Joseph, qui a écrit sur l'histoire juive et les lieux de l'époque, et on entend parler d'un certain Anne dans les Évangiles, qui était un des grands prêtres avec Caïphas et d'autres, et on parlait de ces marchés dans cette cour comme les marchés ou les bazars d'Anne, le grand prêtre. Et c'était lui et toute sa famille. Et cet historien, Flavius Joseph, en parle, et parle des abus qu'il y avait, de la manière dont c'était géré, le fait que c'était un petit peu une petite mafia avec toute la famille qui était, il y avait les prêtres, les récolteurs d'impôts, les gars qui... Et même question de ils ont des serviteurs qui vont battre les gens qui font pas ce qu'ils voulaient, etc. Et les estimations que j'ai vues, quand on prend par exemple, on dit bon ben, ils devaient offrir tant d'argent, on sait combien c'était d'après la loi, et que ça correspondait à plusieurs jours de travail pour quelqu'un de l'époque. Et les estimations que j'ai vues, c'était de l'ordre de les gains que faisait tout ce commerce. Se chiffrait peut-être dans les ordres de 150 ou 200 millions d'euros par an dans l'argent de nos jours. Donc c'était pas un petit peu quelques sous en plus pour pouvoir. C'était vraiment des hommes très 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 riches qui profitaient de la situation. Et comme je disais, c'était quelque chose qui était devenu une habitude. Les gens ne se posaient plus trop de questions. Ils avaient l'habitude que ce soit comme ça, et donc ils venaient et ils ne posaient pas trop de questions. Il faut aussi se mettre en tête que c'était un marché, c'était pas un carrefour ou un supermarché comme on peut le connaître nous, où c'était à peu près. Si vous avez déjà été dans les pays du tiers-monde ou dans les pays du Moyen-Orient, que vous avez été dans les bazars, dans les marchés, c'était plus cette idée-là, quelque chose de avec beaucoup de négociations, de discussions. De nos jours, on en rigole de l'idée que dans les pays comme ça, ils savent négocier et discuter pendant des heures et des heures des prix, etc. Et c'est un petit peu de s'imaginer ces choses-là. Pour nous, peut-être, pour nous aider, c'est le marché de la course à Léa. Si vous allez à la course à Léa le lundi matin, il y a le marché aux antiquités. Et les autres jours, les marchés fruits, légumes et fleurs, etc. Et c'est un petit peu ce genre de contexte-là. Alors, Jésus n'était pas anti-business, il n'est pas contre le fait de travailler, de gagner sa vie, mais ce n'était pas le bon contexte. Et donc ces gens se servaient de cette obligation religieuse, de ces gens qui devaient venir au temple pour obéir à la loi, pour s'enrichir personnellement. C'est une très mauvaise chose aux yeux de Dieu. C'est un péché très grave de dire je vais me servir de la religion ou de la foi pour mon gain personnel, qu'il soit financier ou que ce soit autre chose, que ce soit peut-être de l'influence ou de la réputation ou peut-être même de pouvoir contrôler les gens. Et malheureusement, c'est quelque chose qui, dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire de la religion, dans l'histoire du monde, est monnaie courante. On le voit de partout, on le voit tout le temps. C'est pas du tout biblique, mais ça m'a fait penser à ça, quelque chose que j'avais entendu. Le fondateur de la scientologie, il y a une citation de lui qui dit « Si vous voulez être riche, commencez une religion. » Et donc malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se servent de la religion pour profiter des gens, pour y gagner personnellement. Et c'est quelque chose où on doit faire attention, on doit faire attention aux gens qu'on a en face de nous. De nos jours, avec Internet, je l'ai déjà dit aussi, de faire attention aux gens qu'on peut avoir, les choses qu'on peut écouter, les choses qu'on peut entendre, parce que c'est difficile de mesurer et de déterminer la motivation des gens que nous avons en face de nous, qui peut-être disent plein de bonnes choses et puis qui à la fin rajoutent un petit quelque chose en disant « Ah, mais par contre, il faut que tu donnes » ou « il faut que tu aies plus de foi. Si tu donnes plus de dîmes, alors tu seras plus béni. » Ou des petites choses comme ça où la motivation derrière, et c'est très difficile de le mesurer parce que nous ne sommes pas Dieu, parce que nous ne savons pas. Mais nous devons être en garde et nous devons surtout faire attention que nous ne le fassions pas aux autres, que nous en tant qu'Église, que nous ne tombions pas dans ce genre de choses, que moi, par exemple, en tant que pasteur, je ne tombe pas là-dedans. Malheureusement, c'est très courant. L'idée, c'est qu'on se sert de Jésus, on se sert de Dieu comme un moyen pour arriver à une autre fin. Et la Bible nous présente Dieu et Jésus comme la fin qu'on veut atteindre. L'objectif, la Bible nous dit, c'est que nous avons été créés pour avoir une relation avec Dieu. Donc l'objectif, la fin à laquelle nous voulons arriver, c'est d'avoir une relation avec Dieu, avec Jésus. Et si nous venons le dimanche matin en disant « bon, je viens parce que si j'ai un petit peu de Jésus, mon business ou mon truc, ou je vais avoir du… » Et en fait, au final, notre motivation, c'est d'obtenir autre chose. Et ça, c'est la mauvaise motivation. Et c'est mauvais si c'est pour nous personnellement et qu'on notre propre motivation, on passe à côté de la plus belle chose et de la meilleure chose à laquelle on puisse arriver. Mais c'est encore pire et Dieu met souvent plus de poids et plus de jugement sur les personnes qui sont responsables et qui se servent de leur position et de leur propre corruption dans leur cœur pour l'imposer et pour le mettre sur d'autres personnes. Et on doit faire attention. Parfois, on a peut-être un petit peu d'hésitation à parler fortement ou à condamner, entre guillemets, ou à juger certains mouvements ou ministères qui de toute évidence, ont fait de certaines choses leur motivation et pas de la vraie foi en Jésus, qui veulent de l'argent ou qui veulent peut-être des personnes, des pasteurs qui ont des trains de vie qui sont indécents. Et je crois que c'est des choses contre lesquelles on devrait pouvoir dire non, c'est mauvais. Quelqu'un qui gagne des sommes astronomiques d'argent parce qu'il a des pauvres personnes qui viennent dans son église et qui à longueur de dimanche leur répètent qu'il faut qu'ils donnent et que c'est seulement s'ils donnent que Dieu va pouvoir les bénir. Il y a ce qu'on appelle la doctrine de la prospérité qui fait partie, qui tourne malheureusement dans les églises protestantes et évangéliques et qui est, je pense, quelque chose que Dieu va juger sévèrement. Et nous aussi, je pense qu'on peut dire non, ça c'est une horreur pour l'Éternel et Jésus lui viendrait et chasserait à coups de fouet les gens qui font ces choses. Dans 1 Timothée 6, les versets 3 à 8, pour donner juste quelques versets. Si quelqu'un enseigne une autre doctrine et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à l'enseignement qui est conforme à la piété, il est aveuglé par l'orgueil, il ne sait rien. Il a la maladie des controverses et des querelles de mots. C'est de là que naissent les jalousies, les disputes, les calomnies, les mauvais soupçons. Les discussions violentes entre des hommes à l'intelligence corrompue, privés de la vérité, qui croient que la piété est une source de profit, qui croient que le fait de suivre et d'obéir à Dieu est une source de profit, de gain personnel. Et Paul n'hésite pas, il dit « éloigne-toi de ces personnes ». La piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a. En effet, nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. C'est Paul l'apôtre qui parle. Si on pense moi je visualise certains prédicateurs de la prospérité et je me dis si quelqu'un avait le droit éventuellement peut-être d'exiger, de dire j'ai droit à plus de sous. C'est Paul. Je ne pense pas que ces personnes-là soient meilleures que Paul. Dans 2 Pierre 2, les versets 1 à 3, « Cependant, il y a eu parmi le peuple de prétendus prophètes. De même, il y aura parmi vous de prétendus enseignants. Ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition, allant jusqu'à renier le maître qui les a rachetés, et ils attireront ainsi sur eux une ruine soudaine. » Beaucoup les suivront dans leur immoralité et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Dans leur soif de posséder, ils vous exploiteront avec des paroles trompeuses, mais leur condamnation menace depuis longtemps et leur ruine ne tardera pas. Là aussi, c'est une mise en garde très claire. Il y aura des gens dans l'Église qui viendront et qui seront de faux enseignants et dont l'objectif sera leur propre gain. Dans leur soif de posséder, ils vous exploiteront. Et ici, Jésus est très en colère parce que c'est ce que les chefs religieux juifs font. Ils exploitent le peuple pour leur propre gain. Donc ça, c'est le premier point. Et un deuxième point, c'est qu'ils empêchent les gens de venir adorer Dieu. Imaginez-vous que nous sommes ici le dimanche matin et que le long des murs, on installe des marchands de fruits et de légumes qui, pendant qu'on est en train de chanter la louange, crient « Hey, il est beau mon melon, mon agneau, mon agneau, il est meilleur que celui d'en face. Moitié prix, moitié prix !» Pendant qu'on est en train d'essayer de chanter, de prier, on rigole parce que c'est tellement ridicule, mais c'est ce qui se passait. Et en plus, la cour dans laquelle ils se trouvent, c'était une cour qui était réservée où les non-juifs, ils avaient le droit de venir que là. Et donc ces non-juifs, ils venaient, ils n'avaient pas le droit d'aller plus loin. Il y avait des cours intérieures où c'était plus calme et où on pouvait peut-être arriver à se concentrer sur Dieu. Mais ils empêchaient les non-juifs de venir et d'avoir une relation avec Dieu. C'était là aussi, ils bloquaient, ils empêchaient. Tout le monde trouve ça complètement normal. Mais c'était quelque chose qui était en horreur à Dieu et qui était aussi dans l'histoire d'Israël. On voit qu'un des grands reproches que Dieu leur fait, c'est le fait qu'ils devaient être une lumière pour les nations, que les nations devaient voir le témoignage du peuple d'Israël et connaître Dieu grâce à Israël. Et Israël en a fait une fierté, a dit non, les autres, on les laisse pas venir. Et ils les ont bloqués. Et donc, là aussi, c'est quelque chose de très grave. Et pour nous, on doit faire attention de ne pas bloquer l'accès à Jésus pour les non-croyants autour de nous, que ce soit par des paroles, par nos vies, par des jugements, par des comportements, de peut-être pas conduire les gens vers de mauvaises choses ou de mauvaises motivations. Ce que je vous disais en introduction, l'idée que les gens doivent d'abord être convertis à Jésus, doivent d'abord venir à Jésus avant de changer leur comportement. Peut-être que nous, on est là et on dit non, il ne faut pas fumer, il ne faut pas boire, il ne faut pas... Et on dit aux gens, vous pouvez venir à l'église si vous respectez déjà cette liste de règlements. Ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est tous peuvent venir. Et une fois qu'ils viennent, Jésus peut leur montrer les choses. Une fois qu'ils sont venus à Jésus, Jésus peut leur dire, hey, ça ne va pas. Et la motivation est là, à ce moment-là, correcte et bonne de changer ses comportements. Si les comportements, ça amène à ce qu'on se trompe et on croit, ah, c'est bon, j'ai arrêté tel et tel comportement, c'est bon, Dieu va m'accepter. C'est pas ça le problème. Le problème le plus grave, c'est qu'on a un problème de nature, que nous sommes des pécheurs et que nous avons besoin d'une œuvre miraculeuse de la part de Dieu dans nos vies, qu'il transforme qui nous sommes de pécheurs en êtres sauvés, régénérés par la mort et la résurrection de Jésus. Et donc, on doit faire attention de pas bloquer et empêcher les gens, et on doit faire attention aussi, je pense, que dans les questions de doctrine, que dans les questions de théologie, nous soyons souples et que l'objectif principal, ce soit l'amour, que nous ayons de l'attention pour ces choses, mais que nous soyons aussi pas des gens qui soyons... que l'amour et les choses de Jésus, la relation à Jésus, soient toujours en mesure de nous montrer ou d'induire des changements dans notre doctrine ou dans notre manière de voir les choses. Donc il bloquait les gens et les empêchait de venir à Dieu dans cette manière-là. Mais le troisième point que je trouvais intéressant, c'est pourquoi est-ce que les gens, tout le monde trouve ça normal? Et on peut se poser cette question et regarder dans nos vies et dans la vie de l'Église. Et malheureusement, le fait est que nous devenons un petit peu insensibles ou nous acceptons certaines choses dans nos vies individuelles ou dans la vie de l'Église. Et nous développons une certaine tolérance pour ces choses. Et à partir d'un moment, ça nous convient. C'est comme ça qu'on est habitué et on va plus poser de questions, alors qu'il peut y avoir des choses qui sont franchement mauvaises. Et pour les gens ici qui devaient offrir ces sacrifices, je pense que l'idée, c'est peut-être qu'ils se disaient, je dois voyager de loin, je viens offrir des... Si en plus je dois me traîner des brebis, des pigeons, des moutons avec un sac de pièces et peut-être, c'est pas explicitement dit, mais il y avait un côté, c'est plus facile comme ça. On vient, les choses sont prêtes, on a, au lieu d'amener l'agneau avec lequel on a une relation, peut-être en rigolant, le lapin que les enfants ont élevé et qu'ils aiment bien et qu'on n'a pas envie d'offrir en sacrifice. Ça coûtait peut-être quelque chose, alors que venir au temple et prendre un agneau lambda qui est peut-être déjà pré-emballé, qui est déjà coupé, il y a le sac congélation, hop, on sort, il n'y a pas besoin de tout le travail. Et il y a un côté, c'était facile, ça coûte pas grand-chose, alors ça coûtait de l'argent, les personnes s'enrichissaient, mais c'était peut-être plus facile aussi pour le peuple. Ça ne les met pas en danger, ça les dérange pas. On pourrait presque dire que c'était peut-être de la religion fast-food qui était facile. Et c'est quelque chose qui malheureusement, je pense, qui a aussi cours dans nos églises. Et Jésus veut une relation avec nous, mais une vraie relation, ça coûte quelque chose. C'est quelque chose qui n'est pas pratique, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile et agréable et qui nous convient et qui les gens avec lesquels nous avons des relations fortes de famille ou d'amour ou d'amitié, une partie de la définition de cette relation, c'est qu'ils peuvent nous appeler n'importe quand, qu'ils peuvent, s'ils ont une urgence, un problème, une situation, même si ça nous convient pas, si c'est peut-être pas le truc, la chose qui soit la meilleure, il y a cette relation. Et on voit Jésus, lui, pour avoir une relation avec nous, ça lui a tout coûté. Et parfois, et peut-être qu'on s'imagine et qu'on pense que dans l'Église, on peut avoir une relation avec Dieu qui ne nous coûte rien. On veut quelque chose de facile, on veut pas d'inconvénients et on veut que des avantages. On veut quelque chose sans engagement. On peut, vite, hop, je viens, je pars, quand j'en ai envie. Et ça n'est pas, je pense, ce que Jésus veut, ça n'est pas ce que la Bible annonce. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle, dans les églises, parfois, on a du mal à se corriger les uns les autres. Parce que corriger et reprendre les gens pour des choses qui sont des péchés, ça, c'est difficile et ça nous met mal à l'aise et c'est pas agréable. Ça nous coûte quelque chose. C'est plus facile de dire, de ne rien dire et de passer dessus comme si on n'avait pas vu. Mais c'est pas vraiment de l'amour. Et là aussi, on parle beaucoup d'amour dans l'Église. On parle beaucoup de s'aimer les uns les autres, on parle beaucoup de, on chante le dimanche matin des chants où il est question de, on aime Jésus, mais est-ce que nous le comprenons vraiment? Est-ce que je le comprends vraiment? Est-ce que j'aime vraiment assez les gens autour de moi dans l'église pour leur dire les choses, pour les reprendre sur des choses qui vont leur coûter quelque chose plus tard? Pour les empêcher, est-ce que j'aime vraiment suffisamment les gens dans l'église pour leur... Si c'est mon enfant, si c'est ma fille ou mon garçon qui commence à vouloir grimper sur la rambarde de ma terrasse, j'ai de l'amour pour mon fils ou ma fille, je vais faire quelque chose, je vais leur dire, je vais essayer de les éduquer, je vais dire non, il faut pas faire ça. Et de manière un petit peu pareil, est-ce que des gens dans notre église qui ont des comportements, qui sont en train de faire des choses qui vont amener à la destruction ou à des choses très mauvaises dans leur vie, à cause de leur comportement et de leur péché, est-ce que j'ai assez d'amour pour dire « Hey, il faut que t'arrêtes, tu vas tomber de la rambarde et détruire ta vie. Tu vas te retrouver dans des chemins qui ne sont pas bons, tu vas te retrouver dans des situations que tu vas regretter, ça va être mauvais pour toi. » Et Jésus est clair, si nous aimons les uns les autres, alors nous allons faire ça, et si nous l'aimons lui, alors nous allons obéir à ce qu'il dit, nous allons faire comme les serviteurs de la semaine dernière, quand Marie leur dit « faites tout ce qu'il vous dit », et ils disent « on va le faire ». Et par rapport à cette idée de fast-food, il y a encore cette idée de « est-ce qu'on s'engage vraiment ?» Ça peut être l'église ou autre chose, c'est entre vous et Dieu, mais est-ce que vous participez aux événements de l'église, même si c'est pas pratique? Ou est-ce que vous dites, non, c'est pas le bon jour, c'est pas le bon soir, c'est un peu tard. Est-ce que participer à la vie de l'église, ça vous sort de temps en temps de votre zone de confort, de votre vie? Si c'est pas le cas, et pour moi, bien souvent, c'est pas le cas, plus je prends la responsabilité, plus c'est le cas. Mais, Est-ce que je pense que si vous suivez vraiment Jésus, Vous allez être mis dans des situations de temps en temps, et c'est un bon signe que de temps en temps, vous soyez hors de votre zone de confort, qu'il y ait des choses qui soient un peu difficiles, des choses qui ne soient pas faciles et agréables tout le temps. Il peut en avoir plein aussi qui est agréable. Je ne dis pas qu'il faille tout le temps, on va mettre du verre par terre pour que ce soit systématiquement toujours douloureux. Ce n'est pas ça la question. Mais c'est que si vous n'êtes jamais mis hors de votre zone de confort, je pense que pour moi, en tout cas, je pense qu'il y a un problème. Il y a une fainéantise, un laisser-aller qui n'est pas ce que Jésus veut pour nous. Et je pense aussi que ça joue. Parfois, on dit, mais pourquoi est-ce que l'Église, des fois, les gens remarquent que dans les pays persécutés, les églises, parfois, ont l'air de fleurir et d'être plus zélées et plus proches de Dieu et de vivre des choses incroyables de Dieu. Et c'est simplement de dire, ces gens-là, ça leur coûte quelque chose. Les gens qui sont dans des églises ou dans des réunions de prière ou dans des réunions d'études bibliques, dans des pays persécutés, non seulement c'était sans doute pas à l'heure qui leur convenait, ils ont peut-être dû aussi louper une émission de télé, mais ils peuvent peut-être finir en prison à cause de ça. Et donc, les gens qui sont présents, ils sont vraiment présents parce qu'ils ont envie d'être là. Et malheureusement, ça écrème un petit peu. Et nous, dans nos églises, on a peut-être, malheureusement, entre nous, trop de gens qui, dès que ça va leur coûter un petit peu plus, ils seront peut-être plus là. Et donc, c'est différentes choses qui sont là. Jésus arrive dans le temple et il est saisi d'une sainte colère. Parfois, on peut lire ces choses et se dire, ok, mais Jésus, se mettre en colère, c'est pas bien. Faut pas s'énerver, et quand on lit bien, déjà on voit qu'il y a un côté très réfléchi. C'est pas comme s'il rentrait et puis dit wow, qu'est-ce qui se passe, voilà, et il perd le contrôle. Vous avez vu dans le texte ce qu'il est dit? Si on regarde bien, alors il fit un fouet avec des cordes. Est-ce que vous pensez qu'il a fait ça Non, je pense qu'il est allé, il est rentré dans le temple, il a regardé. Puis il est allé s'asseoir tranquillement et il était là avec ses cordes en train de se faire les nœuds. Je sais pas comment on fait un fouet, moi, mais je pense que ça prenait pas 2 minutes, quoi. C'était pas, ça lui a pris un petit peu de temps. C'est intéressant aussi de se poser la question, qu'est-ce que pensaient les disciples pendant qu'il était en train de se faire les fouets? Le fouet, là? Qu'est-ce qui se passe, là? Est-ce qu'on reste dans le coin? Est-ce que on... c'est pas un très bon signe en général quand quelqu'un fait un fouet comme ça. Je l'ai jamais encore vécu. Quand j'étais petit, j'ai un oncle qui a été quelques années comme missionnaire en Éthiopie. Il en est revenu avec un immense fouet qui faisait tourner autour de sa tête et pouvait faire claquer. Et un fouet comme ça, j'imagine que ça prend des jours entiers pour le faire. Là, je pense que c'était quelque chose d'un peu plus, simple. Mais donc, il y a un côté réfléchi. Il est venu, il regarde les choses et il décide ce qu'il va faire. C'est pas un énervement dans la chair, c'est une colère juste de la part de Dieu qui vient juger, qui vient nettoyer quelque chose qui n'est pas correct. C'est une démonstration d'autorité. Et là aussi, pour imaginer la scène, il faut se dire, c'est comme si moi j'allais à la course à Léa et que j'essayais de faire déguerpir tous les marchands, tous les gens qui étaient là. C'est une grande place, c'est pas un petit, comme je disais, j'arrive même pas à m'imaginer comment commencer. Est-ce que je commence au milieu ou au bout et puis j'avance, ou est-ce que je prends les tables, vraiment je les jette, et est-ce que les gars vont, comment les gens vont réagir, et c'est quand même, faut le faire, quoi. C'est une foule, quoi. Moi je suis seul et il y a une foule de gens, et des gens qui gagnent leur vie, qui ont un intérêt à rester là, c'est quelque chose vraiment de fou. Jésus n'est pas... La religion et Jésus ne sont pas des... L'image que j'en ai parfois, c'est un petit peu le côté très doux, un peu peut-être efféminé, un peu faible, qui parle, qui a des... Jésus, c'est quelque chose. Jésus, là, dans ce cas précis, il est viril. Je veux dire, pensez à la gens. Imaginez-vous quel type de personne est-ce que vous pensez a une chance, entre guillemets, au moins, de nettoyer la place, la course à Léa, par exemple. C'est pas un petit gars. Est-ce que vous pouvez partir, s'il vous plaît? C'est pas bien. C'est quelqu'un qui arrive, qui c'est un rugbyman au moins. C'est quelqu'un qui les gens vont hésiter un petit peu. Peut-être non. Jésus est puissant. Il est sûr de lui. Il sait ce qu'il fait. Si ça vous aide, allez regarder, chercher un petit peu en ligne les illustrations par les artistes de la Renaissance de cette scène. Et c'est génial. C'est des scènes incroyable avec Jésus au centre qui est en mode combat avec les trucs qui volent, avec les gens un peu ça fait un peu scène de nos jours. On pourrait presque avoir une scène un peu de jeux vidéo ou de séries les super-héros, quoi, où il y a le super-héros qui passe au milieu et il y a le ralenti avec les gens qui volent un petit peu, les trucs qui... c'est quelque chose de... Moi, ça m'a aidé à l'imaginer un petit peu, d'aller regarder ces artistes de la Renaissance, où il y a une Bible illustrée par un certain Gustave Doré qui a des gravures qui sont très belles et qui permettent aussi de s'imaginer ces choses. Donc Jésus vient et il rentre dans le tas et il nettoie, il enlève. Et c'est très intéressant parce que la Pâque, à la fête de la Pâque, dans l'épisode initial en Égypte et depuis, les Juifs devaient préparer et nettoyer leur maison et chercher à enlever tout le vin. C'était la règle. Et ils devaient ensuite manger des pains sans levain pendant une semaine et il y avait un côté maniaque. Il nettoyait de fond en comble tous les recoins pour éviter qu'il y ait le moindre petit morceau où que ce soit. C'était quelque chose de très, très important. Et Jésus fait ça avec la maison de son père. Il vient et il fait la même chose. Il est là pour la Pâque et il dit, je suis là pour la Pâque. Je suis chez moi, je suis dans ma maison, je vais enlever le levain. Et qu'est-ce qu'il fait enlever le levain? C'est une image dans la Bible. Le levain est toujours associé à l'idée de péché. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Ça corrompt tout. C'est l'idée que le levain est comme le péché et affecte. Quand on met un petit peu de levain, ça va affecter la chose dans laquelle on le met. Et dans nos vies, le péché va affecter nos vies, va affecter tous les aspects de notre vie. Et donc Jésus vient et il veut enlever tout ce péché. Dans les autres évangiles, dans Matthieu et Marc, on voit que Jésus va refaire un peu la même chose. Il va renettoyer le temple une deuxième fois sur la fin de son ministère. Et on voit que les disciples, quand tout ça se passe, se souviennent de ces passages c'est une citation de Psaume, quand on lit ici « Le zèle de ta maison me dévore ». Et donc, il plus tard, après coup... Encore une fois, ils font le lien, ils font « Ah oui, c'est pour ça qu'il était là, il était dans la maison de son père, c'était la Pâque, il est venu, il a nettoyé. » Et c'est beau aussi de voir et de noter que la Pâque, il fallait sacrifier un agneau dans l'Exode, dans le passage, dans l'histoire d'Israël, il y a les fléaux qui étaient déversés sur le pays d'Égypte, et le dernier, c'était qu'il y allait avoir un ange destructeur qui allait venir et tuer tous les premiers-nés des familles. Mais les familles qui auraient sacrifié un agneau et auraient mis de ce sang sur les linteaux de leurs portes, l'ange passerait au-dessus. Et la Pâque est un magnifique type, une annonce prophétique de ce que Jésus allait faire. Au chapitre précédent, on a vu que Jean-Baptiste disait « Voici quoi, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » La Pâque et ce qu'il y avait, c'était le sacrifice de l'agneau au début et puis ensuite l'absence de levain, l'absence de péché, c'est le sacrifice de Jésus et ensuite l'agneau qui est enlevé. Paul dit dans 1 Corinthiens 5, les versets 6 à 8, il dit « Vous n'avez vraiment pas de quoi être fiers, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Purifiez-vous donc du vieux levain afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. » Pierre en parle aussi dans 1 Pierre 1, on ne va pas s'y tourner. Mais les apôtres voient et font le lien après, et c'est une étude très intéressante d'aller regarder toutes les lois et les sacrifices et les fêtes de l'Ancien Testament qui sont tous pleinement et parfaitement accomplis dans la vie de Jésus. Et les apôtres, et ils nous en parlent dans le Nouveau Testament, l'ont compris et voient et se rendent compte que, eh oui, tout ce qu'on faisait pour la Pâque, tout ce qui était attendu de nous, tout ce qui était, on devait faire matériellement, on voit que ça s'est accompli pleinement et de manière finale dans la vie de Jésus et dans ce qu'il a fait. Jésus est celui qui enlève vraiment notre péché. C'est l'agneau pascal parfait. Et c'est intéressant aussi de voir que Jean en parle et qu'il s'y attarde dessus, mais qu'il y a aussi cette image de l'agneau sacrifié dans l'Apocalypse, qui a été aussi écrit par Jean. Et c'est une image qui revient dans le Nouveau Testament, qui revient dans l'Ancien Testament aussi. Et on peut presque toujours voir l'annonce d'un aspect de ce que Jésus a fait parfaitement à la croix. Et grâce à ce qu'il a fait parfaitement à la croix, donc il peut nous convertir, il peut nous sauver, comme on en parlait. Il va transformer notre nature quand nous venons premièrement à lui, que nous mettons notre foi en lui pour notre salut. Et ensuite, il va travailler à nous nettoyer. La Bible nous présente, le Nouveau Testament nous dit que nous, individuellement, nous sommes le temple de Dieu, que Jésus vient habiter en nous par son Saint-Esprit. Et donc, Jésus qui une fois nous a changé notre nature et est venu en nous, il vient dans sa maison et il nettoie. Il va au cours de notre vie, normalement, là aussi, si nous sommes dans une bonne relation avec Dieu, si nous lisons la Bible, si nous sommes avec nos frères et nos sœurs, si nous prions à Dieu, il va nous montrer des choses dans notre vie qui ont besoin d'être changées, qui ont besoin d'être enlevées. Parfois, on a ici deux aspects de Jésus. La semaine dernière, on a Jésus et la joie, le vin. Et puis on a Jésus et le nettoyage, la purification, la sanctification. On a Jésus le vin et Jésus le fouet. Et parfois, malheureusement, en tant qu'être humain, souvent, on a tendance à aller vers les excès. On a du mal avec les choses nuancées et les choses où il y a plusieurs vérités qui correspondent. Et parfois, on a du mal à... On veut... Oui, Jésus, c'est la joie, il nous aime, tout est bien, c'est beau, mais le côté, il va nous corriger et nous reprendre, et ça, non. Ou alors, il y a des gens qui tombent dans l'excès inverse et qui se disent, bon, ben, faut pas s'amuser, Dieu, il veut pas qu'on s'amuse, il est juste là à vérifier qu'on s'amuse pas trop avec le fouet, et il va nous, si on rigole trop longtemps, il va, tac, un petit coup pour remettre les choses dans l'ordre. Mais il y a les deux aspects. Jésus est vraiment les deux. C'est un équilibre entre les deux. Jésus, Dieu, c'est un petit peu ridicule d'utiliser ce mot-là, mais on pourrait dire il est nuancé. Et on a tendance, nous, en tant qu'être humain, à se concentrer sur un aspect ou l'autre, et on a du mal parfois à accepter ce mélange des gens, et parce que c'est un petit peu peut-être plus difficile à saisir, mais on ne va pas saisir Jésus, on ne va pas saisir Dieu, on ne va pas se le mettre dans notre boîte et arriver à le contrôler. Et il y a les deux choses, il veut notre il vient nous donner de la joie, il veut remplir nos vies, il veut que nous ayons la vie en abondance. Donc il veut nous bénir et en même temps il vient et il veut nettoyer et enlever les choses qui ne sont pas bonnes. Il est mais le sa motivation, c'est notre bien. Parfois on peut se dire oui, il veut juste nous empêcher de nous amuser, mais c'est pas le cas. Il veut que nous ayons la vie en abondance. Il veut que nous profitions de cette vie. Alors qu'est-ce que Dieu peut nettoyer en nous? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Est-ce que vous priez Dieu? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Est-ce qu'il y a des choses? Est-ce que récemment Dieu vous a montré quelque chose, que ce soit en lisant la Bible, que ce soit pendant un temps de prière, ou que ce soit peut-être en discutant avec des frères et des sœurs chrétiens, ou en écoutant peut-être un enseignement? Est-ce qu'il y a quelque chose récemment que Dieu vous a mis sur le cœur et vous a dit « ça doit changer, ça doit être corrigé, ça il faut que tu arrêtes de le faire, ça il faut que tu le fasses différemment, cette personne-là il faut que tu te comportes différemment avec elle ?» etc., etc., etc. Il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer dans cette catégorie-là, mais c'est un signe de santé spirituelle. Si on est tranquille et tout va bien et Dieu ne nous montre jamais rien, en général, c'est le signe que notre conscience est corrompue et n'est plus sensible à Dieu et à son Saint-Esprit, à sa Bible, à ce qui est marqué là. Il faut noter que c'est des choses qui viennent et Dieu peut le faire quand nous avons un comportement correct aussi et nous obéissons. Si vous ne lisez jamais votre Bible, ben vous n'allez jamais être corrigé par votre Bible. c'est la logique bête, encore une fois. Si vous écoutez jamais ou vous prenez jamais de notes, quand vous êtes en train d'écouter un enseignement, peut-être que là aussi, ça va tout passer. Ouais, c'était bien. Et puis, et un signe de bonne santé spirituelle, c'est que Dieu va corriger des choses, va changer des choses, va nous montrer des choses tout au long de notre vie. Et tout au long de notre vie, il y aura des situations qui arrivent, qui peut-être de nouvelles personnes, de nouvelles relations, de nouvelles situations, de nouvelles circonstances qui vont amener de nouvelles choses que Dieu aura besoin de corriger. Nous ne serons arrivés, nous ne serons complètement sanctifiés qu'une fois arrivés au ciel, à Jésus. Nous avons besoin de ces choses pour que Dieu puisse nous parler. Une mise en garde, c'est de pas non plus tomber dans une paranoïa. Il y a des gens qui sont là. Est-ce que, ouais, je sais pas si j'ai le droit de faire ça. Est-ce que c'est un péché? Je le disais en rigolant pour Sean. Est-ce que j'ai le droit de manger du poulet avec des gaufres? ceux qui comprendront. Mais On est, Dieu ne veut pas non plus qu'on tombe dans une paranoïa où on est toujours à mesurer chaque chose. Est-ce que, ouais, je ne sais pas, peut-être que c'est un péché, aïe, aïe, aïe. Dieu veut que nous vivions sans angoisse existentielle. Il ne veut pas que nous soyons dans le besoin d'analyser de manière excessive tout ce que nous faisons dans notre vie. Il veut que nous ayons une vie abondante et dans la paix et la joie, où nous ne sommes pas en train de paniquer parce qu'on ne sait pas si ce qu'on vient de faire, je ne sais pas, est-ce que ma motivation était bonne? J'ai dit bonjour, mais peut-être que je voulais lui dire mauvais jour, en fait. Je sais pas. Non. Il veut pas qu'on soit comme ça. Il veut qu'on ait la paix et qu'on soit tranquille. Et l'exemple, le meilleur exemple, c'est dans les psaumes, dans le psaume 139, David qui prie « Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » C'est quand on vient à la prière, quand on dit à Dieu « Dieu, s'il y a quelque chose dont je ne suis pas au courant, montre-le-moi. » Et nous pouvons faire confiance à Dieu qu'il va nous le montrer si nous avons besoin de changer. Encore une fois, avec l'aide de la lecture de la Bible, de la prière, de nos frères et sœurs, qui nous corrigent, on se corrige ensemble dans l'amour. La Bible et le Nouveau Testament nous présentent aussi l'idée que l'Église est le temple de Dieu, de manière collective. Et là aussi, il y a l'idée que parfois l'Église doit être nettoyée, doit être purifiés. On voit que ces Juifs n'étaient plus choqués forcément par ce qui se passait dans le temple. Et malheureusement, il y a peut-être des pratiques chez nous dans l'Église ou dans l'Église au sens large qui sont à proscrire, mais que tout le monde dit c'est bon, c'est ok. Et c'est intéressant, je lisais certains commentateurs qui disaient que en général, on aime bien prier pour le réveil dans l'Église, dans le monde, mais que en général, la marque la plus sûre d'un grand réveil, c'est qu'il y a une grande purification. Et une purification, souvent, ça passe malheureusement par une épuration. Il y a des gens et des comportements qui sont enlevés. Et l'idée que l'Église, à cause d'une présence accrue du Saint-Esprit et d'un travail du Saint-Esprit dans le cœur de chacune des personnes dans l'Église, perd sa tolérance pour le péché et devient intolérante envers le péché, comme elle devrait être, mais qu'elle n'est pas toujours, malheureusement. Donc, Jésus nettoie le temple et dans nos vies, il veut nettoyer nos vies et il veut nettoyer l'Église. Et c'est un signe, dans Hébreux 12, il est question du fait que parfois on peut peut-être être attristé si un frère ou une sœur vient nous parler et dire hey, « ça va pas » et que c'est justifié ou que Jésus nous montre quelque chose par la Bible et ça peut nous attrister, mais l'auteur de la lettre aux Hébreux dit c'est un bon signe parce que c'est le signe que vous êtes des enfants, vraiment des enfants de Dieu parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, si on est parents, on corrige nos enfants pour leur bien. C'est le signe d'une bonne relation, que Dieu a un intérêt. Si ça lui est égal, c'est qu'on n'est pas ses enfants, entre guillemets. Le fait qu'il nous corrige et qu'il nous reprend est un signe que nous sommes vraiment ses enfants et ça devrait être quelque chose qui, même si ça produit parfois un petit peu de tristesse, devrait nous permettre de nous réjouir et de nous dire « yes ». Je suis vraiment enfant de Dieu, il se soucie de me corriger, il a envie de m'améliorer. Donc Jésus, il y a toutes ces choses, il nettoie le temple, et verset 18, les Juifs prirent la parole et lui dirent « Quel signe nous montres-tu pour agir de cette manière ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent « Il a fallu 46 ans pour construire ce temple et toi en 3 jours tu le relèverais ?» Cependant, lui parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Donc, il vient vider la cour Saléa. Et il y a les gens qui disent, mais qui tu es pour faire ça? C'est quoi ton autorité? T'as un badge, t'as un truc de la préfecture ou pas? C'est ça la question. Et c'est intéressant parce que moi, je me dis, s'il y a une personne qui arrive déjà à nettoyer toute une place comme ça, on se dit déjà il y a une certaine autorité, il y a un certain poids. C'est presque un signe en soi-même, parce que c'est pas quelque chose de facile, comme on en a parlé. Mais en gros, ils viennent, et quand il est dit les Juifs, c'est les chefs du peuple, ils viennent et ils lui disent en quelque sorte, montre-nous un signe miraculeux pour valider, pour justifier ce que tu viens de faire. Et la question pour moi est un petit peu intéressante ou triste dans le sens où moi ma réaction première ça aurait été de dire on arrive et on lui dit d'arrêter de faire ce qu'il est en train de faire, t'arrêtes de faire pourquoi tu vides la cour là. Mais moi je pense qu'il y avait un côté où il savait ce qu'il faisait était mauvais, donc ils ne remettent pas en question le fait qu'il nettoie la cour. Ils lui disent de quelle autorité, de quel droit. Et lui, il aurait pu leur répondre peut-être plus sèchement. Il aurait pu leur dire, mais je fais ce qu'il fallait faire parce que c'est pas, tout ça, c'est pas bon. Vous le savez, vous, dans votre conscience, vous devriez savoir que ça n'est pas correct. Mais il leur répond quelque chose de plus et il répond quand même à leur question. Avec cette réponse, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Comme souvent, Jésus dit quelque chose qui les choque, ils comprennent pas vraiment ce qu'il a dit et ils n'ont pas l'intelligence pour comprendre ou ils ne veulent pas et ils s'en offusquent. Donc le texte nous-mêmes l'explique, il n'est pas en train de parler du temple en lui-même, mais il est en train de dire « si vous détruisez mon corps, ce temple », et on peut presque se dire qu'il a peut-être fait un geste « détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai ». J'imagine ce genre de choses, mais c'est intéressant parce qu'on, pour deux raisons, on lui reproche ses paroles lors de son procès final, qu'il avait dit qu'il allait détruire le temple et le relever. Et c'est même quelque chose qu'on lui crie comme moquerie lorsqu'il est sur la croix, qu'il avait dit ces choses-là, ces paroles. Et c'est intéressant aussi parce que Jésus parle à ses chefs religieux et il sait qu'ils vont avoir leur part de responsabilité dans la destruction de son corps, ce temple dont il parle. Cette annonce est tout simplement incroyable parce que souvent on se dit « bon, c'est Dieu le Père qui a ressuscité Jésus ». Moi, c'est ce que je me dis le plus souvent, mais là, il se dit « détruisez ce corps, ce temple, et moi, je le relèverai ». Tuez-moi et je me ramènerai à la vie. Est-ce que c'est quelque chose que quelqu'un de normal peut dire? Seul Dieu peut dire ce genre de choses. Et la Bible nous explique en fait que c'est une œuvre de la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit travaillent de concert pour cette résurrection. Et donc c'est une déclaration qui est vraiment claire et limpide du fait qu'il est Dieu. Il dit « tuez-moi et je me ramènerai à la vie ». Parfois on dit oui, Jésus c'est un joli prophète, il a dit de belles choses. Non, soit il est fou, soit il était complètement perché, soit il est Dieu. Il n'y a pas de demi-mesure. Et de nos jours, c'est quelque chose qui est bon et qui est. Souvent les gens de nos jours nous disent mais pourquoi Jésus? Pourquoi pas une autre religion? Pourquoi est-ce que je devrais venir à Jésus? Quel signe est-ce que tu me montres? C'est ce qu'il demande en quelque sorte, souvent dans ce genre de discussion. Et la réponse, pourquoi est-ce que je devrais écouter Jésus sur ce qu'il a à dire sur la vie, sur le monde, sur les réalités de notre monde? C'est parce que on l'a mis à mort, il était mort et il est revenu à la vie, dans la chair, et personne d'autre ne l'a fait. Et c'est une preuve du fait qu'il est Dieu. La résurrection est la preuve qui authentifie tout ce que Jésus a dit et fait. Tout le reste, s'il n'y a pas la résurrection, ça tombe à l'eau. Paul, dans Romains 1, il dit « Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils qui, en tant qu'homme, est né de la descendance de David et qui, du point de vue de l'Esprit-Saint, a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. » Sa résurrection déclare qu'il est le Fils de Dieu. Et Paul, dans 1 Corinthiens 5, dit que si Jésus n'est pas ressuscité, alors nous sommes les plus à plaindre des hommes. Tout ce que nous faisons ici ne sert à rien si c'est pas vrai. C'est en ça et en lui que nous devons mettre notre foi. Et verset 23, pendant que Jésus était à Jérusalem lors de la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Ça, c'est une bonne chose. C'est bien. Beaucoup croient en lui à cause des miracles. Mais le verset 24, mais Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. On voit qu'il n'y a pas de racine chez ces personnes. Simplement une admiration ou une appréciation pour le spectaculaire. Là aussi, c'est une déclaration de sa divinité, le fait qu'il connaît vraiment le cœur et la motivation de l'homme. Il les connaît parfaitement. Et ici, on a quelque chose qui est intéressant. C'est, on pourrait dire, 2 degrés de croyance en Jésus. On peut savoir qu'il existe. On peut dire oui, il a existé. Oui, il a fait des choses. Oui, même peut-être dire peut-être qu'il est ressuscité. Mais est-ce qu'on croit en lui pour être sauvé? Est-ce qu'on dépend de lui? Est-ce qu'il est vraiment notre maître et notre Seigneur? Ou est-ce qu'on le classe un petit peu dans une oui, il y a des vérités, mais je vais pas vivre en conséquence avec ces choses. Et donc il dit, il y a des gens qui viennent à moi, qui croient en moi, qui croient que je suis peut-être Dieu, peut-être le Messie, mais qui, au final, ne veulent pas vraiment le suivre et vivre pour lui. Et c'est intéressant parce que Jésus n'a pas confiance en eux. Est-ce qu'il a confiance en nous? c'est une question intéressante. Il connaît nos cœurs et il sait quand nous l'acceptons vraiment, quand nous venons vraiment à lui. Mais à ce moment-là, il va venir dans notre cœur, comme on l'a vu, et il va nettoyer, et il va vouloir purifier. Et il veut venir dans une maison qui est propre, il veut enlever toutes les mauvaises choses, toutes les choses qui ne lui plaisent pas. Et donc la question, c'est est-ce que Jésus est le maître de ma maison, de mon cœur? Est-ce que Jésus est le maître de ma vie? C'est un des passages peut-être les plus inquiétants du Nouveau Testament, dans Matthieu 7, où Jésus dit, il y a plein de gens qui vont venir à moi à la fin et qui vont dire, Jésus, on a fait ça, et j'ai fait ça, et j'ai fait ça pour toi. Et il va dire, je ne vous ai jamais connu. Et donc la question, c'est est-ce qu'on le connaît vraiment? Est-ce qu'on connaît Jésus? Est-ce qu'on a une relation avec lui? Est-ce que lui est libre est-ce qu'il est chez lui en nous pour nettoyer sa maison? Et c'est beau aussi parce que on n'est pas parfait et chacun d'entre nous, je pense qu'on a des choses où on sait que si tout le monde était au courant, on serait un peu honteux. On se dit si tous les gens savaient, ils ne m'aimeraient pas. Mais la réalité qui est magnifique, c'est que Jésus, qui nous connaît parfaitement, nous aime complètement, malgré le fait qu'il sache tout ce qui nous passe par la tête et tout ce que nous avons fait et allons faire dans nos vies. Il nous aime. Et il veut venir en nous, dans notre cœur, pour nous sauver, pour nous transformer premièrement, mais ensuite pour nettoyer, pour nous donner cette vie abondante. Et donc on peut prier ensemble, on peut dire « Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Prions ensemble. Jésus, merci pour ce temps ensemble. Merci pour ta parole, merci pour ce miracle, ce signe que tu as fait de nettoyer le temple, mais ensuite ce signe encore plus incroyable d'être revenu de la mort. Tu vois chacun d'entre nous, nos cœurs et nos pensées. Seigneur, donne-nous de la paix et de la joie, une fois que nous t'avons accepté, Seigneur, d'avoir une assurance que nous sommes sauvés. Aide-nous à rester sensibles à ta parole, à ton esprit, à nos frères et sœurs, pour que tu puisses nettoyer et corriger et être libre de faire ce que tu veux dans ta maison, Seigneur, dans nos cœurs, dans notre Église. Et Seigneur, que tu appelles à toi des gens qui ne t'ont pas accepté, qui n'ont pas cru en toi complètement, qui n'ont pas cru en toi pour leur salut. S'il y en a parmi vous, venez à Jésus ce matin et priez-le, acceptez-le pour votre salut. Entrez en relation complète avec lui. Jésus, merci, parce que tu es tellement bon et plein d'amour envers nous. Tu veux nous bénir, que nous ayons une vie en abondance, que ce soit par des bonnes choses ou de la correction. Seigneur, ton objectif est toujours le même, c'est celui d'un père qui aime ses enfants. Merci pour ce temps ensemble, pour notre Église. Merci pour le temps qui va venir, Seigneur, de communion fraternelle. Sois présent parmi nous et parle à chacun d'entre nous encore par nos frères et sœurs, Seigneur. En ton nom, nous prions. Amen.